Huitième soirée. Nous lisons Romains chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Qu'ainsi n'advienne.
Car moi aussi je suis israélite, de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel il a préconnu. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit dans l'histoire d'Élie? Comment il fait requête à Dieu contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et moi, je suis demeuré seul, et ils cherchent ma vie. Mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ainsi donc, au temps actuel aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus sur le principe des œuvres, puisqu'autrement, la grâce n'est plus la grâce. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, et les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et David dit que leur table devienne pour eux un filet et un piège et une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et courbent continuellement leur dos. Je dis donc, ont-ils bronché afin qu'ils tombassent? Qu'ainsi n'advienne. Mais par leur chute, le salut parvient aux nations pour les exciter à la jalousie. Or, si leur chute est la richesse du monde et leur diminution la richesse des nations, combien plus le sera leur plénitude? Car je parle à vous, nations, en tant que moi, je suis en effet apôtre des nations. Je glorifie mon ministère si en quelque façon je puisse exciter à la jalousie ma chair et sauver quelques-uns d'entre eux. Car si leur réjection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception sinon la vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi qui étais un olivier sauvage as été hanté au milieu d'elles, et es devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été arrachées, afin que moi je fusse hanté. Bien, elles ont été arrachées pour cause d'incrédulité, et toi tu es debout par la foi. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Si en effet Dieu n'a pas épargné les branches qui sont elles, selon la nature, qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, la sévérité envers ceux qui sont tombés, la bonté de Dieu envers toi, si tu persévères dans cette bonté, puisqu'autrement toi aussi tu seras coupé. Et eux aussi, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier qui, selon la nature, était sauvage et a été hanté contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui en sont selon la nature seront-ils hantés sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion, Il détournera de Jacob l'impiété, et c'est là l'alliance de ma part pour eux lorsque j'ôterai leur péché. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Car comme vous aussi, vous avez été autrefois désobéissants à Dieu, et que maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde par la désobéissance de ceux-ci, de même, ceux-ci aussi ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde, afin qu'eux aussi deviennent des objets de miséricorde. Car Dieu a renfermé tous, Juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier, et il lui sera rendu? Car de lui, et par lui, et pour lui sont toutes choses, à lui soit la gloire éternellement. Amen. Promesse absolue de bénédiction terrestre faite à Israël. Nous avons, Romains chapitre 11, verset 1, cette question posée par l'apôtre au sujet d'Israël. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Jusqu'au 8e chapitre, il a fait l'histoire du cœur de nous tous, soit juif, soit gentil. Il a exposé l'évangile de la grâce de Dieu, la réconciliation de l'homme par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Après avoir établi cette doctrine, il commence au 9e chapitre l'histoire des économies. Il fait connaître la manière dont Dieu a agi envers les juifs et les gentils. Et dans ce 9e chapitre, il traite la question « Est-ce que Dieu a rejeté son peuple ?» Nous avons vu en étudiant l'histoire des quatre bêtes et aussi celle de l'Église que les Juifs ont été mis de côté et que l'Évangile est apparu dans ce monde pour sauver les pécheurs, soit juifs, soit gentils, pour révéler le mystère caché d'un peuple céleste et pour faire comprendre aux principautés et aux puissances la sagesse de Dieu infiniment diversifiée. Un juif qui se convertit maintenant entre dans l'économie de la grâce. Mais là-dessus revient aussitôt la question, Dieu a-t-il donc rejeté tout son peuple? Il ne s'agit pas ici de son peuple spirituel. Il est question de son peuple selon la chair, des siens, des juifs. L'apôtre dit, verset 28, « Ils sont ennemis par rapport à l'évangile, mais bien-aimés, eu égard à l'élection à cause des pères. » Dans ce chapitre 11e, il ne s'agit donc pas de l'Évangile, de l'appel des Juifs à la grâce par l'Évangile, bien qu'il y eût une élection pour l'Évangile d'entre ce peuple, il s'agit des Juifs comme peuple de Dieu extérieur, des Juifs selon la chair, qui sont ennemis quant à l'Évangile, cependant bien-aimés eu égard à l'élection à cause des pères. Est-ce que Dieu l'a rejeté, ce peuple ennemi, par rapport à l'Évangile? La réponse de l'apôtre est « à Dieu ne plaise ». Nous, chrétiens, nous nous glorifions de ce principe que Dieu ne se repent point de ses dons et de sa vocation. C'est bien, c'est un principe scripturaire, mais à qui l'apôtre l'applique-t-il? Ce n'est pas à nous, c'est aux Juifs. Il est toujours bien important de prendre un passage de la parole de Dieu dans son contexte et non pas de l'arracher du terrain où Dieu l'a planté. Pendant l'économie actuelle, Dieu appelle son peuple céleste. Il met de côté, par conséquent, son peuple terrestre, les Juifs. La nation juive ne doit pas entrer dans l'Église. L'endurcissement, au contraire, est arrivé en Israël jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée, jusqu'à ce que tous les enfants de Dieu qui forment le corps de l'Église dans cette économie soient appelés. Israël comme nation sera sauvée. Le libérateur viendra de Sion. Il n'a pas rejeté son peuple. Ils sont ennemis par rapport à l'Évangile et ils le seront jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit appelée. Mais le libérateur viendra. Voilà l'abrégé de ce qui concerne les Juifs. Du moment qu'on peut dire de l'économie des gentils qu'elle n'a pas persévéré dans la bonté de Dieu, on peut dire que tôt ou tard elle sera retranchée. Bonté pour toi si tu persévères dans sa bonté, autrement toi aussi tu seras retranché, verset 22. La racine de l'olivier n'est pas seulement Israël sous la loi, loin de là, c'est Abraham à qui a été adressé l'appel de Dieu. C'était la vocation d'un seul homme, séparé, élu, dépositaire des promesses. Le choix tombait sur Abraham et sur la famille d'Abraham selon la chair. Israël a servi d'exemple comme dépositaire des promesses et de la manifestation de l'élection de Dieu. Maintenant, c'est l'Église. Pour vous faire comprendre cette racine des promesses qui est Abraham, je dirai quelque chose sur la suite des économies qui ont précédé. Premièrement, à la chute de l'homme, nous le voyons laissé à lui-même, quoique non sans témoignage. Il n'a point de loi, point de gouvernement, et la suite de cela fut le mal porté au plus haut degré, de sorte que le monde était rempli de violence et de corruption, et Dieu l'a purifié par le déluge. Ensuite vient Noé. Un changement a lieu. Ce changement, c'est le droit de vie et de mort, le droit d'exécuter la vengeance émise dans la main des hommes. Celui qui répand le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu. À cela est ajoutée une bénédiction de la terre plus ou moins grande. Celui-ci, dit Lémec en parlant de Noé, nous soulagera par rapport à la terre que l'Éternel a maudite. Et une alliance est faite de Dieu avec Noé et avec la création, alliance en témoignage de laquelle Dieu donne l'arc-en-ciel. L'Éternel flaira une odeur d'apaisement et dit « Je ne maudirai plus la terre » Genèse 8, verset 21, 9, versets 6, 12 et 13. Voilà l'alliance donnée à la terre à la suite du sacrifice de Noé, qui était le type du sacrifice de Christ. Je dirais en passant que Noé a manqué à cette alliance comme a toujours fait l'homme. Au lieu de retirer des bénédictions de la terre, il commence à cultiver une vigne et il s'enivre. Par sa faute, le principe de gouvernement a également perdu sa force dans ses premiers éléments. Et Noé, qui tenait les rênes de ce gouvernement, devint le sujet de la dérision d'un de ses fils. Nous voyons dans toutes les économies la chute immédiate de l'homme. Mais tout ce qui s'est perdu par la folie humaine sous toutes les économies sera retrouvé en Christ à la fin. La bénédiction de la terre, la prospérité des Juifs, la gloire de l'Église. Tout ce qui a paru et qui a été gâté entre les mains du premier Adam refleurira dans celle du second Adam, époux de l'Église, roi des Juifs et de toute la terre. Une autre chute encore plus terrible eut lieu à la suite de ce qui arriva à Noé. Dieu avait fait éclater ses jugements dans le déluge et la providence s'était ainsi révélée. Or, qu'a fait Satan ? Satan, tant qu'il n'est pas lié, s'empare toujours de l'état des choses ici-bas. Aussitôt donc que Dieu manifesta dans ses jugements de providence Satan se présenta aussi comme Dieu, il se fit Dieu. N'est-il pas dit que les choses que les gentils offrent, ils les offrent aux démons et non à Dieu ? Satan donc s'est fait le Dieu de cette terre. Vos pères ont anciennement habité au-delà du fleuve et ont servi d'autres dieux, dit le Seigneur aux Israélites. Josué 24, verset 2. C'est la première fois que nous voyons Dieu signaler l'existence de l'idolâtrie. Dès le moment qu'elle eut fait son apparition, Dieu appelle Abraham, et voilà pour la première fois l'appel de Dieu à une séparation extérieure de l'ordre de choses ici-bas. Parce que Satan s'étant introduit comme le gouverneur céleste du monde, il a fallu que Dieu eût un peuple séparé des autres peuples, où la vérité pût se maintenir et toutes les voies de Dieu envers les hommes roulent autour de ce fait qu'ici-bas, le Seigneur a appelé Abraham et sa postérité pour être le dépositaire de cette grande vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Par conséquent, tout ce que Dieu fait sur la terre se rapporte entièrement et directement aux Juifs comme le centre de ses conseils terrestres et de son gouvernement. C'est ce que vous reconnaîtrez en lisant Deutéronome, chapitre 32, verset 8. Vous verrez ces deux principes très distinctement présentés dans la parole. D'un côté, les promesses faites à Abraham sans condition, de l'autre, Israël les recevant sous condition et perdant tout. Mais, comme Abraham a reçu les promesses sans condition, Dieu ne peut jamais les oublier, quoique Israël y ait manqué après s'être engagé avec condition. Et c'est un principe important, car si Dieu eût manqué à ses promesses envers Abraham, il pourrait manquer aussi à ses promesses envers nous. En Sinaï, Israël prit les promesses sous condition, et y manqua, mais cela n'a nullement diminué la validité et la force des promesses faites à Abraham 430 ans auparavant. Je ne parle pas maintenant de cette promesse spirituelle, « Toutes les nations seront bénies en toi », promesse qui a reçu un accomplissement partiel par l'Évangile sous cette économie. Mais je vais vous montrer qu'il y a des promesses faites à Israël qui reposent sur la même fidélité de Dieu. Nous commencerons nos citations sur ce sujet par la promesse faite dans Genèse au chapitre 12. C'est l'appel d'Abraham qui se trouvait alors au milieu de sa famille idolâtre. C'est une promesse très générale, mais qui embrasse les bénédictions temporelles aussi bien que celles qui sont purement spirituelles. Les deux espèces de promesses se trouvent dans le même verset, également sans condition. La partie spirituelle de la promesse se trouve répétée une fois, chapitre 22. C'est la seule fois, tandis que les promesses temporelles sont souvent répétées. Au chapitre 15, nous avons la promesse de la terre, promesse fondée sur une alliance faite avec Abraham, aussi sans condition. C'est un don absolu du pays. Il s'y trouve aussi la promesse d'une nombreuse postérité, versets 5 et 18. Et même les limites exactes du pays données, versets 18 et suivants. Au chapitre 17, versets 7 et 8, la promesse de la terre est renouvelée. Ces promesses sont confirmées à Isaac, chapitre 26, versets 3 et 4, à Jacob, chapitre 35, versets 10 à 12. Voilà les promesses faites aux pères, et à Israël aimé à cause des pères, faites à Abraham sans condition aucune, les promesses terrestres comme les promesses spirituelles. Si l'on dit que les promesses spirituelles sont sans condition, les promesses temporelles sont sans condition aussi. Il y a autant de certitude dans la promesse faite à Abraham, « Je te donnerai ce pays », que dans celles qui nous sont faites à nous gentils. Je ne cite pas la lutte de Jacob. On croit qu'elle était la preuve d'une foi extraordinaire en cet homme. C'est vrai, mais en même temps, c'est une foi qui, exercée après une conduite très répréhensible, a été accompagnée d'une humiliation évidente. C'est Dieu qui a lutté contre lui, mais il a soutenu sa foi. Ainsi, Dieu s'est fait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, héritier de ses promesses et pèlerin sur la terre. Nous verrons que Dieu se prévaut de ce nom, pour ainsi dire, sur la terre, et que les fidèles en Israël y puisent toujours les motifs de leur confiance. « Tu diras aux enfants d'Israël, dit-il à Moïse, « L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement, c'est là mon mémorial dans tous les âges. » Exode chapitre 3, versets 6, 15 et 16. Mais d'un autre côté, Israël s'est mis en relation avec Dieu d'après un principe qui est l'opposé de tout cela. Le principe de la propre justice, le principe de la loi, en vertu duquel, reconnaissant que nous devons l'obéissance à Dieu, nous l'entreprenons par nos propres forces. Car l'histoire du peuple d'Israël est, en grand et même dans les détails de ces circonstances, l'histoire de nos cœurs. Exode chapitre 19. Vous allez voir le changement immense qui a lieu dans l'État d'Israël. Jusqu'ici, nous avons vu les promesses sans condition faites à Israël. Si vous parcourez les chapitres de l'Exode depuis le 15e jusqu'au 19e, vous verrez que Dieu leur avait donné toutes choses gratuitement, et même malgré leurs murmures, la manne, de l'eau à boire, le sabbat, que Dieu avait soutenu dans leur combat avec Amalek en Réphidim, tout cela, il le leur rappelle. « Vous avez vu, leur dit-il, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Et maintenant, si. » Voici maintenant, pour la première fois dans les relations de Dieu avec Israël, ce petit mot « si ». Maintenant, si vous obéissez exactement à ma voix, vous serez aussi mon propre bien, choisi d'entre tous les peuples, car toute la terre m'appartient, et vous me serez un royaume sacerdotal et une nation sainte. Or, dès qu'il y a une condition, c'en est fait de nous, parce que le premier jour où nous sommes dans cette alliance avec condition, nous ne la gardons pas. Et voilà la folie d'Israël. En vain, Dieu envoie sa loi, qui est bonne, sainte et juste. Pour un pécheur, sa loi est la mort, parce qu'il est pécheur. Et dès le moment que Dieu nous donne sa loi sous condition, il nous la donne non parce que nous pouvons obéir, mais pour nous faire comprendre plus clairement que nous sommes perdus parce que nous l'avons violée. Les Israélites auraient dû dire, « Il est vrai, nous devons obéir, mais nous avons manqué tant de fois que nous n'osons pas prendre les promesses sous une telle condition. Au lieu de cela, que disent-ils, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ils s'engagent à accomplir tout ce que l'Éternel a dit. Ce peuple prend les promesses sous la condition d'obéir exactement. » Quelle est la conséquence de cette témérité? Le veau d'or est fait avant que Moïse soit descendu de la montagne. Quand nous pécheurs, nous prenons l'engagement d'obéir exactement à Dieu, quoique l'obéissance soit toujours un devoir, et sous peine, si nous n'obéissons pas, de perdre la bénédiction, dans ce cas, toujours nous manquons. Il faut que nous disions, nous sommes perdus, car la grâce suppose notre ruine. C'est cette instabilité totale de l'homme sous condition que l'apôtre veut démontrer, Galates chapitre 3, versets 17 et 21, lorsqu'il dit « Le médiateur n'est pas d'un seul », c'est-à-dire que dès le moment qu'il y a un médiateur, il y a deux parties. Mais Dieu n'est pas deux, Dieu est seul. Et quelle est l'autre partie? C'est l'homme faible et misérable. Eh bien, il n'y a rien de stable en l'homme. C'est pourquoi il a succombé sous le poids de ses engagements, et c'est ce qui arrivera toujours. Mais la loi ne peut pas annuler les promesses faites à Abraham. La loi qui est venue 430 ans plus tard ne peut point abolir la promesse. Et la promesse a été faite à Abraham, non pas seulement pour la bénédiction des nations, mais aussi pour assurer le pays et les bénédictions terrestres à Israël. Le raisonnement de l'apôtre à l'égard des promesses spirituelles s'applique également aux promesses temporelles faites aux Juifs. Nous voyons qu'Israël n'en a pas pu jouir sous la loi. En effet, tout fut perdu quand il eut fait le veau d'or. Néanmoins, l'alliance à Sinaï a été fondée sur le principe d'obéissance. Exode 24, verset 24. Ensuite, il prit le livre de l'Alliance et le lut, le peuple l'écoutant, lequel dit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons ». Moïse donc prit le sang, voilà l'Alliance sanctionnée par le sang sur ce principe. « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Vous savez que le peuple fit le veau d'or et que Moïse détruisit les tables de la loi. Maintenant, dans Exode chapitre 32, vous verrez comment les promesses faites avant la loi furent la ressource de la foi. C'est ce qui soutint le peuple par l'intercession de Moïse, même dans la chute. Et vous verrez comment, par le moyen d'un médiateur, Dieu revint à l'homme après sa faute. Versets 9 à 14. C'est un peuple de col roide, laisse-moi, et ma colère s'embrasera contre eux, et je les consumerai. Mais je te ferai devenir une grande nation. Alors Moïse supplia l'Éternel, reviens de l'ardeur de ta colère, et te repens du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même en leur disant « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tout ce pays dont j'ai parlé, et ils l'hériteront à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Voilà donc, après la chute d'Israël, Moïse suppliant Dieu pour sa gloire de se souvenir des promesses faites à Abraham et Dieu se repentant du mal qu'il voulait faire à son peuple. Voyez Lévitique chapitre 26. Ce chapitre est une menace de tous les châtiments qui devaient venir sur Israël infidèle. Verset 42. Et alors je me souviendrai de mon alliance que j'ai faite avec Jacob, Isaac et Abraham, et je me souviendrai aussi de la terre. Voilà comment Dieu revient à ses promesses faites sans condition, longtemps avant la loi. Vous verrez que c'est ce qui est applicable au dernier temps. Il y a deux autres alliances faites avec Israël pendant son séjour dans le désert. Nous avons vu que l'alliance sous la loi ayant été violée, l'intercession de Moïse donna lieu à une autre alliance dont nous avons les bases en Exode chapitre 33, versets 14 et 19. Au chapitre 34e, verset 27, l'Éternel dit « Écris ces choses, car selon la teneur de ces paroles, j'ai fait alliance avec toi et tout Israël. » Remarquez ici « avec toi », car il y a un changement très notable dans le langage de Dieu. Dieu avait toujours dit en Égypte « mon peuple, mon peuple ». Du moment qu'ils ont fait le veau d'or, il ne le dit plus. Ils avaient dit « ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte » Exode 32, verset 1. Du moment qu'ils attribuent leur sortie d'Égypte à Moïse plutôt qu'à l'Éternel, Dieu dit à Moïse, « Ton peuple, qu'arriva-t-il alors ?» Moïse intercéda et ne permit pas à Dieu de dire qu'Israël fut le peuple de Moïse. Moïse rétablit la relation véritable et dit à l'Éternel, « Ton peuple. » Maintenant, c'est une alliance faite avec Moïse comme médiateur. Voici le principe de la souveraineté de la grâce, principe introduit quand tout était perdu, la condition de la loi ayant été violée. Si Dieu n'était pas souverain, quelle aurait été la conséquence de cette violation? La destruction de tout le peuple. C'est-à-dire que, bien que la souveraineté de Dieu soit éternelle, elle se révèle lorsqu'elle devient l'unique ressource d'un peuple perdu par ses voies, et cela a lieu par le moyen d'un médiateur. Vous verrez encore une alliance en Deutéronome, chapitre 28, verset 69. Ce sont ici les paroles de l'alliance que l'Éternel commanda à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux en Horeb. Voici le sujet de cette troisième alliance avec les Israélites. Dieu la traite avec eux, afin que, sous elle, étant obéissants, ils puissent continuer à jouir de la terre. Ils n'ont pas gardé cette nouvelle alliance, par conséquent, ils ont été expulsés de leur terre. C'est à l'époque de cette troisième alliance qu'Israël y avait été installé, et par l'observation de cette alliance, il l'aurait conservée. Voyez chapitre 29, versets 9, 12 et 13. Voyez aussi pour cet appel aux promesses sans condition, Deutéronome chapitre 9, versets 5 et 27, chapitre 10, verset 15. Dans Michée, chapitre 7, versets 19 et 20, nous voyons ces mêmes promesses faites à Abraham être la source de l'espérance prophétique. Dans Luc, nous voyons que le fidèle israélite Siméon les rappelle comme le sujet de la confiance d'Israël qui, par ses promesses, se reposait sur la fidélité de Dieu. Jusqu'ici, nous avons vu en vertu de quel principe on est entré dans la terre de Canaan, mais nous avons aussi vu qu'avant la loi, Dieu leur avait promis la terre comme possession perpétuelle, par des alliances et des promesses faites sans condition, et c'est par le moyen de ces promesses, par la médiation de Moïse, qu'Israël est épargné et jouit enfin de la terre promise, par la troisième alliance faite dans les plaines de Moab. Après la chute des Israélites dans cette terre promise, reste à appliquer à leur rétablissement à venir toutes les promesses faites à Abraham. Après que ce peuple a manqué de toute manière à Dieu, les prophètes nous feront voir que Dieu lui a promis de le rétablir dans son pays, sous Jésus-Christ, son roi, qui est le plein accomplissement de toutes les promesses temporelles. Souvenons-nous, chers amis, que dans ce que nous avons dit, nous avons la révélation du caractère de l'Éternel, et que, bien que ces choses soient arrivées à Israël,
elles sont arrivées de la part de Dieu et que par conséquent, elles sont la manifestation du caractère de Dieu en Israël pour nous. Israël est le théâtre sur lequel Dieu a déployé tout son caractère et il ne s'agit pas seulement d'Israël, il y va de la gloire de Dieu et de l'honneur de ses perfections. Si Dieu pouvait faillir à ses dons envers Israël, il pourrait faillir à ses dons envers nous. Nous poursuivrons l'histoire de l'état de ce peuple dans la réunion prochaine.